Couture.
Je l'aime beaucoup, ce homme-là.
Dans le mythe.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Avec Pierre Couture et Frank, le dédomiseur.
Radio X.
Ouais, beaucoup de commentaires là, sur la messagerie par rapport à notre dernier invité, Farnell Morissette, candidat du Parti libéral dans Taschereau. Et continuez à commenter sur la messagerie, il n'y a pas de problème. Bon, il est là, notre gars, il est là!
Voici le food. Professeur Sylvain Charlebois.
Sylvain, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien. On parle de bouffe, finalement, en campagne électorale.
Ben oui.
À chaque fois, après une dizaine de jours, je suis déçu. Il n'y a personne qui parle de bouffe. Mais Québec solidaire nous a sauvés.
Ben oui.
On
va
ouvrir des épiceries publiques.
Ben oui. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben là, on veut... Ben, l'autre chose, c'est qu'on veut limiter, plafonner les profits de métro à 2 % le IGA, Sobeys, puis peut-être l'Oblast Maxi,
ben
Super C, tout ça, là.
Ben, ils se font trop d'argent. Ils impriment de l'argent, ces gens-là.
Mais on va faire quoi? Bon,
c'est criminel.
Ils vont s'en aller. Ils vont quitter le petit feu.
Ben, écoute, bon. On a un système capitaliste. La dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, on a un système capitaliste.
Oui.
Sans profit, on n'a pas d'épicerie.
Non, bon. Mais c'est sans profit. Je veux dire, les compagnies privées font pas de... Nous autres, Radio-A, c'est pas de profit. On n'a pas de job ici, là.
Ben, je sais. Mais selon Québec solidaire, au-delà de 2 % de marge nette, là, c'est trop. C'est trop. C'est inexcusable. Malgré le fait qu'ils ont des pharmacies, malgré le fait qu'ils vendent d'autres choses que de la bouffe, on s'en tient à 2 % Moi, je dois vous dire, de mettre un maximum sur le profit, c'est la pire chose qu'on peut faire.
Mais j'imagine, Sylvain, que vu que 2 % de profit, c'est la limite de l'acceptable, j'imagine qu'ils vont nous annoncer que maintenant, la marge bénéficiaire de la SAQ sera réduite à 2 %
Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais.
Je m'attends à ça, moi, là.
T'es à 36-37% de marge à SQ?
Bon, à peu près.
C'est à part tous les frais cachés qu'on ne voit pas passer, là.
Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on risque de voir de la comptabilité créative. Ça, c'est une chose aussi. L'autre chose, c'est que tu décourages l'investissement.
Ben oui.
Vous le savez, là, si on décide de limiter le niveau de profitabilité, il n'y aura plus d'autres joueurs. Puis déjà, les gens chialent qu'il y a un oligopole, il nous manque de compétition. Ben, mettez une limite sur le profit, vous allez voir que ça a l'air un monopole.
mais c'est pas juste ça, c'est que c'est un secteur qui est privatisé. L'État s'ingère dans un secteur, il vient compétitionner des privés. À un moment donné, tu dis, moi, je m'en vais, je quitte le petit feu.
Mais il y a une chose que j'ai aimée quand même de Québec solidaire, c'est très rare que je donne crédit à un parti comme Québec solidaire, mais quand même, tu sais, l'ouverture d'épicerie pour s'occuper de déserts alimentaires, moi, je pense que cet argument-là a un peu de mérite. Pourquoi? T'sais, le vol à l'étalage, l'itinérance font fuir les bannières dans les centres-villes. Il y a des déserts alimentaires partout au pays, incluant au Québec. Moi, j'étais sur la Sainte-Catherine à Montréal en fin de semaine. Et puis, écoute, il n'y en a pas d'épicerie. Si tu veux manger, tu vas soit au Dollarama ou au Couche-Tard.
Mais il y en a déjà eu.
Il y en a déjà eu, tu sais. En raison du vol, il n'y a plus grand bannière qui vont vouloir s'installer dans les centres-villes. Puis là, j'utilise Montréal comme exemple, mais tu sais, il y en a des exemples à Québec aussi.
Ah oui.
Mais tu sais, c'est là où, à mon avis, il y a quand même... C'est un concept peut-être intéressant. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que le gouvernement n'a rien à voir à devenir une épicerie publique, sauf pour les endroits où il n'y a personne qui veut aller.
Oui, mais ça a été essayé, aussi. Ça, Sylvain. Mettons, à Baldwin, en Floride, c'est l'exemple le plus... C'était ça, là. C'est un petit village en banlieue de Jacksonville. Ouais. On a ouvert ça en disant, il y a un food desert. Donc, c'est la même expression que tu as utilisée, mais ça a fermé.
Oui, ça a fermé. En fait, il y a plusieurs cas.
C'est ça qui va arriver aussi.
Il y en a eu au Kansas, il y en a eu au Wyoming. Il y a un cas qui existe encore à Sainte-Paz, là, outre les... épiceries sur les bases militaires. Là, on s'entend que c'est des épiceries publiques, mais ils desservent une clientèle particulière, là, les militaires. Mais dans le cas de Saint-Paz, c'est une communauté qui veut absolument une épicerie, mais ils payent. Il y a des subventions. Ils payent beaucoup plus parce qu'ils veulent simplement avoir une épicerie dans leur... Puis les gens, ils se ramassent ça pour... pour du café, ces choses-là. Là. Alors, tu sais, il faut, si on a à ouvrir des épiceries publiques, c'est sûr qu'il faut accepter qu'on paye notre nourriture deux fois, comme contribuable et comme consommateur. Ça, c'est un choix de société qu'on doit faire. Il y a pas, on peut pas contourner ça, ce fait-là. Là.
Mais le choix de société aussi de réglementer puis d'ajouter toujours des couches puis des taxes à gauche et à droite, ça, c'est un autre choix de société qu'on a décidé aussi. Et on défavorise peut-être là, l'entrepreneuriat avec ça. Là.
Ah, c'est sûr. C'est certain. Il y a de la place là, pour l'entrepreneurship. Là. On le voit, il y a des centres de liquidation qui émergent un peu partout.
Parfait, ça.
En amont de la chaîne, moi notre podcast, le podcast de Food Professor, on est au CIAL à chaque année. C'est le plus gros show de l'innovation alimentaire. C'est incroyable, tous les nouveaux produits qu'on voit chaque année. Il y a du monde qui veut investir dans le domaine agroalimentaire, mais la dernière chose que tu veux faire, c'est de limiter les profits et de laisser le gouvernement jouer un trop gros rôle. Parle à n'importe quel entrepreneur, déjà, le gouvernement joue un trop gros rôle avec la bureaucratie.
Exact. Fait que là, si tu ajoutes encore des couches, c'est peut-être une recette pour le désastre, là, recipe for disaster.
Tu fais du jus, tu es une nouvelle compagnie, tu fabriques du jus, un nouveau jus. Là. Tu veux-tu faire affaire avec le gouvernement pour vendre ton jus?
Mais non. Sérieusement? Tu ne veux pas d'impact?
Parce que, tu sais, dans le fond, c'est parce que, tu sais, tu vas chez Loblaws, tu vas chez Sobeys, en passant, un de mes comptes, c'est le gouvernement. Ça l'enlève un peu l'allure.
Ben, ça se peut que Loblaws ou l'autre dise tu vas faire, tu choisisses. Là.
Ouais, c'est ça. Dans le cas de la SAQ, c'est assez simple. Tu vends au gouvernement parce que tu n'as pas le choix. Ouais.
C'est la loi. Encore, c'est une espèce de verrue. Comment qu'on dit? C'est là depuis quoi la prohibition, puis on continue dans le même système. Là,
alors, ouais, je sais que t'adores la SAQ, Pierre.
Non, non, mais moi, j'ai écrit plein de textes là-dessus. Moi, j'étais pour la libéralisation. Il y a des partis politiques qui ont fait ça, qui nous ont dit ça, mais ils l'ont pas fait. Fait que, regarde, on est là. Stratégie de Trump sur le bœuf, c'est intéressant, ça, parce que là, il y a des gros transformateurs de bœuf qui contrôlent le marché, puis là, Trump, il dit, on va les contourner.
Le président Trump, là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe aux États-Unis parce que pendant que notre bœuf explose, là, le bœuf est très cher, puis il n'y a pas un chat qui en parle, à part moi, puis vous autres, là, un peu. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat s'en viennent. Puis, il y a deux choses qui importent. Pour les Américains, il y a deux choses qui sont archi importantes. Il y a la religion, puis le bœuf.
Ah oui.
Puis des fois, les deux vont ensemble.
Barbecue.
Oui, c'est ça. Dans les stationnements d'églises qui sont... vous avez été aux États-Unis, les églises sont immenses.
Le dimanche, là, c'est plein tout le temps. Là.
Ouais. Écoute, c'est des églises de 10-15 000 personnes. Là, on parle, c'est comme le Colisée ou le Centre Vidéotron. Là. C'est incroyable. Là. Mais dans le cas du bœuf, si tu veux vraiment, vraiment perdre ton monde... charge plus cher pour ton bœuf. Puis là, actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont préoccupés par le prix du bœuf. Puis le président Trump fait beaucoup de choses. D'abord, il a décidé de laisser depuis hier là, 300 000 tonnes métriques de bœuf d'un peu partout dans le monde, principalement du Brésil.
Entrée.
Principalement pour le service alimentaire comme McDonald's, par exemple.
Ouais.
Parce qu'on veut baisser les prix. Mais en moi plus autres, là, je pense pas que ça va marcher, mais c'est pas grave. Il veut être perçu comme quelqu'un qui essaye de faire quelque chose. L'autre chose qu'il a décidé de faire, c'est de laisser les producteurs abattent leurs propres produits. Donc, si tu es un producteur bovin à petite échelle, on va te permettre d'abattre ton propre produit.
Parce que tu devais passer par un transformateur, c'est ça?
Exactement. Okay. Les gros, là, National Beef, GBS, Cargill. Mais encore une fois, c'est un faux argumentaire parce que il faut que tu aies quand même une licence. Il y a des règles à suivre de la USDA pour ce qui est de la salubrité. Ouais. C'est pas simple de démarrer un abattoir, là. Fait que ça, puis est-ce que ça va faire une différence d'ici la mi-mandat, les élections de mi-mandat au mois de novembre? Mmh. Moi, j'en doute, là, pas mal. Mais ça, c'est-tu lui, le sujet.
Mais c'est-tu lui ou c'est plutôt Robert Kennedy Jr.? Tu sais, lui, il a fait beaucoup de sorties là, sur il fallait enlever les seed oil là, des produits, puis il fallait enlever la malbouffe, puis tout ça. Tu sais, il est très... C'est un drôle de personnage.
Très naturel,
un genre de conservateur grano, là.
Ben, tu sais, Robert F. Kennedy, c'est un nom qui est associé souvent au vaccin, là, parce que c'est un conspirationniste. Là. Il a fait développé son image par rapport à ça. Mais dans le domaine agroalimentaire, je dois te dire, Frank, T'sais, moi, je suis allé aux États-Unis à quelques reprises depuis quelques mois, puis le Make America Healthy Again, là, le MAHA Movement, ouais. Là, le mouvement MAHA, il influence la politique partout. Là. Au Delaware, j'étais au Delaware, j'étais en Pennsylvanie, j'étais en Californie, là, t'sais, le royaume anti-républicain. Là,
ouais.
Ça a une influence.
Il vient de là, lui.
Oui, absolument. Puis c'est ça, mais en fait, pour ce qui est du bœuf, c'est vraiment Donald Trump qui mène la charge. Puis en plus, ce matin, on apprenait, je donnais une entrevue avec Newsweek aux États-Unis, on apprenait que le Department of Justice aux États-Unis a décidé d'enquêter sur les prix. Mais dans l'enquête, on inclut des compagnies comme Walmart. Il va au détail. Là. Fait que, tu sais, vraiment.
Ça, c'est
là,
un message. Le message de Trump, c'est baisser vos prix, là.
Baissez vos prix. Puis je peux vous rappeler que Biden a fait un peu la même chose il y a quelques années.
Oui, oui, je me souviens. Oui, oui.
Tu te souviens?
Oui, oui.
Puis justement, les compagnies ont approché la Maison-Blanche pour écrire des chèques là, parce qu'ils ne voulaient pas aller en cours. Parce que si tu vas en cours, il faut que tu montes tes marges. Puis si tu montes tes marges, bien, les gens vont le savoir. Tu donnes à la cour des hein? preuves comme quoi tu charges très cher.
C'est comme les raffineurs. Là. Si tu montes tes marges... De 60 cents par litre d'essence raffinée.
Exactement.
C'est ça qui se passe
ici. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que Trump, son jeu, c'est de forcer la donne, de forcer ces entreprises-là à soit baisser les prix ou d'aller de l'avant et créer des chèques d'indemnisation, finalement. Puis souvent, ces chèques-là sont perçus comme des aveux de culpabilité.
Ben, c'est ça. Partiel à Chicoutimi, ben oui, les producteurs de lait sont maintenant à Ottawa.
Oh, regarde. Vous suivez ça un peu?
Ben oui, ouais, on a parlé beaucoup,
ouais.
Là.
Ouais, c'est Daniel Gobin. C'est un gars que je connais. C'est un bon gars, là. C'est un bon gars, mais il a une job à faire. Puis sa job, c'est de représenter les producteurs de lait du Québec pendant plusieurs années. Moi puis lui, on s'est débattu sur le Buttergate en 2021, sur le gaspillage de lait. En tout cas, il y a un paquet de dossiers sur lesquels on n'était pas d'accord. Lui, il défendait ses membres. Puis il défendait bien, là. Tu sais, vraiment, là, il était très présent dans les médias. Puis là, ben c'est ça, quand le premier ministre Mark Carney a décidé de déclencher une partielle à Chicoutimi-le-Fjord, ben il a choisi le président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. C'était un message, moi en tout cas je le voyais là, comme un message clair en disant « la gestion de l'eau, c'est une priorité ». Là, il s'en va à Ottawa. Est-ce qu'il va être le prochain ministre de l'Agriculture? J'en doute, là, parce que Daniel, il connaît très bien la gestion de l'offre, mais je suis pas certain que les gars dans l'Ouest, dans le bœuf ou dans le porc, par exemple, apprécieraient...
Ils vont aimer ça, ouais, c'est ça.
Ah, oh, mon Dieu, ben non, parce que tu comprends que en agriculture, tu sais, à la surface, c'est l'harmonie. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un producteur agricole qui va chialer contre un autre. Jamais. Jamais sur la place publique. Mais en arrière-scène... Là,
ah, ben là, ça brasse tout le temps.
T'as les producteurs de la gestion de l'offre qui ont tout, qui ont toute l'attention, puis t'as les autres. Puis les autres, là, ils haïssent la gestion de l'offre.
Fait qu'il y a des ça joue du coude, hein? Elbows up, des fois, de côté, là.
Le problème, c'est pas compliqué, c'est que tu reçois des indemnisations d'Ottawa, des milliards de dollars.
Ben oui, c'est plein de pieds. Il y a de l'argent, là. Oui, oui.
Donc, ils surcapitalisent. On surcapitalise à peu près 20 à 25 d'agriculture au Canada. Les terres agricoles augmentent en prix. Bien, les producteurs bovins, les producteurs de porc, les céréales, tout ça, ils ont aucune indemnisation, eux autres. Là. Fait qu'ils sont pognés
à le marché. Eux autres sont sur le marché de la bourse, là.
Exactement. Ils sont pognés à gérer les effets macroéconomiques d'un secteur qui est surcapitalisé carrément. Là, fait que c'est pour ça que Daniel Gobin, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ça va être le prochain premier ministre, le prochain ministre de l'Agriculture au Canada. » Moi, j'en doute. C'est Hugh McDonald. Je suis convaincu que vos auditeurs ne savent même pas c'est qui le ministre de l'Agriculture actuel à Ottawa. Mais son nom, c'est Hugh McDonald. Rien à voir avec la restauration. Mais Hugh McDonald, il vient de l'île du Prince-Édouard.
Ben, tu vois. Il y a ses entrées au Parti libéral. Sylvain, c'est toujours un plaisir. Food Professor, ton podcast aussi qui roule.
Oui, absolument. Puis cette semaine, notre invité, c'est le président de Bento Sushi. On va parler des tarifs qui ont été cancellés en passant.
Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont crié là, Hein, il y a eu des effets jusqu'à la colline parlementaire.
En dedans de 48 heures, on a eu un maple taco. Ouais. Là.
D'ailleurs, la Banque du Canada qui garde le statu quo, là, parce que les impacts des tarifs arrivent le 8 septembre. Ça va faire mal.
Ouais. C'est la semaine prochaine.
Les gens sont là, pour ça. Les Québécois sont pour ça.
Tu regarderas un graphique que j'ai fait sur X là, ce matin là, ouais. qui démontre clairement que les contre-tarifs de l'année passée ont fait gonfler notre inflation alimentaire de 0,5%.
Fait que les prix vont monter. Ben oui.
Puis pendant ce temps-là, les économistes, mes collègues à travers le pays disaient non, les contre-tarifs, c'est elbows up, c'est important, puis ça n'a aucun impact sur les prix alimentaires. Hey, come on.
Voilà. Sylvain, tu es salué. Merci beaucoup.
Salut.
Merci. Le food professor. Toujours intéressant, Sylvain. Mais tu vois, c'est ça, des contre-tarifs, ça va avoir un effet. Ça a eu 0,5% la dernière fois en 2025, c'est l'an passé. Là, il va y avoir encore là. Les gens disent qu'ils veulent que le coût de la vie, ça les impacte, mais ils veulent des tarifs. Ils ne comprennent pas que les contre-tarifs du Canada, ça va les toucher directement. Capoté, hein?
On va en parler tantôt dans mon segment, justement.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.